Et bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur l'antenne d'Eau de Radio, de Radio La Radio des Hauts-de-Garonne et bien évidemment avec toute l'équipe du journal d'information locale et culturelle. On est ravis, n'est-ce pas, messieurs, de vous retrouver, voilà, comme chaque jour, du lundi au vendredi, pour notre journal en direct à midi, rediffusé à 15h et 18h. Voilà, juste avant de retrouver le sommaire de ce journal en ce mardi 27 janvier, on va rappeler bien sûr comment nous suivre, la bande FM. Ça, vous êtes habitué depuis le mois de juillet 1997, où Eau de Radio est né dans le quartier Carrier à Lormont. Vous pouvez nous suivre via le site eauderadio.fr, comme tout site internet, bien sûr, bien des infos, nos coordonnées, des reportages, etc. Et surtout la possibilité de venir entendre, voir télécharger toutes nos émissions. Et troisième moyen de nous suivre, la radio numérique terrestre. Et oui, on est sur ce bouquet de radio. Voilà, le DAB ou DAB+, hein, je vous laisse prononcer cet acronyme anglais comme vous voulez. Donc trois moyens pour nous suivre. Allez, tout de suite le sommaire de ce journal en ce mardi 27 janvier. C'est Aurélien qui va nous présenter quelques brèves d'infos pour ouvrir ce journal d'ici quelques instants. On va revenir juste en suivant à des enregistrements qui avaient été réalisés notamment lors de la cérémonie des vœux de Jean Touzeau, maire de Lormont. C'était au PAM et parmi les personnes interviewé avant la cérémonie des vœux, bien sûr, eh bien Jean-Marc Dutroteau, il est directeur de l'association Couleurs du Monde, et on retrouvera cette interview qui est réalisée dans le cadre d'une action intitulée Quartier Connecté, nos vies, nos voix. Je vous en redirai quelques mots, hein, parce qu'on a un rendez-vous ensemble, j'espère que vous serez nombreux et nombreux à nos côtés, ce samedi 31 janvier. Pour la partie musicale, juste après cet entretien, on écoutera Nova Sauvageune, notre invité d'hier, avec cadre de l'association organisatrice des entractes solidaires. On aura un agenda culturel juste après Nova Sauvageonne, et on se quittera avec un deuxième groupe, deuxième artiste, JSG. Alors on aura le plaisir peut-être demain d'avoir ne serait-ce qu'un titre du troisième album du groupe, car demain on aura vraiment une émission spéciale autour d'un événement qui va se dérouler le 7 février. Donc on aura une session live avec que je retrouve son nom, José Garcia. On aura un petit phoneur avec Yann qui est artiste avec le groupe Mozovan, et on aura également un entretien qui a été réalisé par nos confrères, on les salue, d'Aki.fm, avec la présidente, je crois, de Kids Sans Frontières, l'asso pour laquelle le concert du 7 février sera organisé. Ça sera un plateau donc spécial demain, donc on écoutera un titre de JSG, Jérôme Solaire Groupe. Et juste en suivant, comme tous les mardis, on va retrouver nos jeunes reporters européens, nos jeunes ambassadeurs des valeurs éco-citoyennes et européennes, pour ce magazine réalisé en partenariat avec la MEBA, la Maison de l'Euro Bordeaux Aquitaine. Et là, ils vont parler des langues en Europe. Voilà, ce sera la thématique de l'émission, le magazine qui va suivre. Mais tout de suite, pour ouvrir notre journal en ce mardi 27 janvier, c'est donc Aurélien qui vient nous présenter quelques brèves d'infos. Bonjour Aurélien.
Bonjour Joël, bonjour à tous. On commence avec les transports et une matinée compliquée pour les usagers de tramway à Bordeaux. Une panne informatique a fortement perturbé le réseau TBM très tôt ce matin. Résultat, moins de la moitié des rames ont pu sortir des dépôts, seulement une cinquantaine sur plus de 108 habituellement en circulation. Conséquences directes, des temps d'attente très importants sont mesurés, jusqu'à 50 minutes dans certaines stations comme Pexoto. Depuis 8 heures, le trafic revient progressivement à la normale. TBM annonce une fréquence de 10 minutes sur les troncs communs et 20 minutes sur les terminus, avec un retour à la normale attendu dans la matinée. On parle maintenant aménagement urbain avec un projet d'envergure sur la rive droite. Le projet de renouvellement urbain Joliot-Curie, porté par les villes de Bordeaux, Senon et Floirac, vise à transformer en profondeur les quartiers de la Benauge et d'Henri Sellier, Léo Lagrange. Objectif, changer l'image du quartier, renforcer son attractivité tout en préservant sa vocation populaire. Au programme, apaisement des boulevards, développement des transports en commun, nouveaux espaces verts mais aussi nouveaux équipements publics comme un pôle culturel à la Benauge, une cité de l'enfance à Léo Lagrange, ou encore la restructuration du centre commercial. Le chantier s'étalera jusqu'en 2027 avec un budget global de 232 millions d'euros financé par l'État, la métropole, les communes et les bailleurs sociaux. Autre info locale, engagement citoyen cette fois à Bassens. La caserne de sapeurs-pompiers lance un appel à celles et ceux qui souhaitent devenir pompiers volontaires. Le recrutement est ouvert dès 17 ans, sans condition de diplôme. C'est un engagement flexible, compatible avec une activité professionnelle, avec deux formules possibles. Une mission complète ou un engagement centré sur le secours à la personne, qui représente aujourd'hui la majorité des interventions. Après un entretien, une visite médicale et des tests physiques, les volontaires suivent une formation complète avant de rejoindre les équipes sur le terrain. Et on termine avec notre note solidaire et sportive. La course La Nuit des Relais fera son grand retour à Bordeaux le jeudi 4 juin 2026, place Péberlan. Portée par la Fondation des Femmes, cette course solidaire vise à soutenir les associations engagées pour les droits des femmes et la lutte contre les violences. Le principe est simple, courir en équipe de 3 à 5 personnes après avoir collecté au moins 500 euros. Animation, village associatif et DJ set viendront rythmer la soirée. Les inscriptions sont déjà ouvertes.
Allez, merci Aurélien pour ces quelques brèves. Et là, tout de suite, on va revenir quelques jours en arrière. C'était le 15 janvier dernier au Pas Malormont, lors de la cérémonie des vœux. L'équipe de Radio était sur place et en amont, bien évidemment, de la cérémonie des vœux, quelques échanges, quelques rencontres avec des responsables associatifs et notamment Jean-Marc Dutreteau, directeur de l'association Couleur du Monde. Voilà, c'est un entretien qui est réalisé autour de l'engagement et cette action, voilà, qui s'intitule Le Quartier Connecté. Nos vies, nos voix. On écoute Jean-Marc Dutreteau et on en reparle juste en suivant.
Alors l'association à laquelle j'appartiens et je suis le directeur, elle s'appelle Couleur du Monde et elle est à Lormont. C'est une association régionale mais basée à Lormont et on est notamment dans un lieu qui s'appelle la Maison de l'International pour mener nos activités régionales et évidemment celles qu'on mène à Lormont.
Depuis combien de temps êtes-vous engagé dans la vie associative ?
Oula, bah je pense depuis presque toujours. Je crois que depuis l'âge de 16 ans, j'ai commencé avec le rugby, le sport, le ski. Et puis après, je me suis dirigé vers l'animation socioculturelle en tant que professionnel. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas engagé, mais c'est différent qu'un bénévole qui, lui, est engagé pleinement sans avoir de retour. Mais pour autant, je pense et je pose souvent la question, est-ce qu'on peut être et salarié et engagé ? Moi, je crois que je le suis.
Et du coup, combien de temps y consacrez-vous par semaine ?
En tant que salarié, je consacre déjà 35 heures par semaine. Mais bien évidemment, si je prends une journée comme aujourd'hui, à 8 heures, j'étais déjà avec une équipe, mon équipe et des jeunes qui arrivaient d'une, et on en parlera sûrement, mais d'une dizaine de pays. Et j'ai fait une assemblée générale avec un mouvement associatif sur Bordeaux cet après-midi. Et ce soir, je suis allé donner un coup de main dans un logement pour un jeune et finalement pour arriver au vœu de monsieur le maire. Donc un engagement aussi quand même et des heures qui dans nos métiers dépassent de toute façon 35 heures comme on pourrait le faire de façon classique.
Quelle est la raison de votre engagement ?
La raison de mon engagement, alors je sais pas si ça peut paraître parfois bizarre, mais c'est pour aller bien. Souvent je dis on va vers les autres aussi par égoïsme. Alors évidemment ça peut pas se cantonner qu'à ça. Mais je pense que pour moi, c'est d'abord la première chose. C'est pour moi-même et faire en sorte que mon entourage soit plus épanoui et qu'on soit plus dans quelque chose qui est positif. Alors évidemment, après, dans un second temps, je donne juste un exemple. Lorsque je vois des jeunes qui partent dans différents pays ou que j'ai des jeunes qui arrivent de différents pays et ça fait depuis des années qu'on fait ça, mais chaque fois que je vois leurs yeux et à l'arrivée et au départ, rien que ça, c'est quelque chose qui fait que je me dis que mon engagement, mon métier sert à quelque chose et donc me pousse à continuer.
Quelle est la mission ou le projet dont vous êtes le plus fier ?
Déjà, créer une association comme Couleur du Monde ou l'accompagner en tout cas, ça, je pense que c'est quelque chose, je suis assez content. Je ne sais pas si c'est de la fierté, en tout cas je suis content de ça. Mais content aussi pour cette histoire de jeunes là qui arrivent, qui partent, etc. Et puis peut-être un des projets que l'on a mené en 2014 et qui continue encore aujourd'hui. C'est un projet dit de réciprocité. C'est le premier gros projet national où on a pu faire venir dans le cadre du service civique une dizaine de jeunes sénégalais. Ça ne s'était jamais fait. Et faire repartir une dizaine de jeunes français qui allaient être en lien pendant l'ensemble de leur service civique. Et aujourd'hui, ce projet, il continue avec une dizaine de nationalités, avec 60 jeunes et à mobiliser peut-être 500 ou 600 jeunes depuis sa création. Ce projet s'appelle Wetché, ça veut dire échange en Wolof.
Et du coup, quel est votre plus gros défi?
Un des plus gros défis, ben, c'est celui quand même, on va dire, de conduire le camion, c'est-à-dire de faire en sorte que l'association puisse avoir des salariés engagés, ce qui est le cas, puisse avoir des financements et que les valeurs que l'on défend puissent continuer à être fortes. Voilà, c'est faire en sorte que l'ensemble de ces points puissent continuer à se mettre en place, et ça, c'est pas facile tous les jours, mais c'est aussi, comme le disait monsieur le maire tout à l'heure aussi, un challenge et du coup très intéressant aussi.
Qu'est-ce que votre engagement a changé dans votre quotidien?
Bon, souvent je fais des petites blagues comme ça, mais d'être moins bête. Mais c'est vrai que l'engagement, c'est l'ouverture aux autres, c'est l'ouverture au monde pour nous. Donc on peut imaginer qu'en croisant des personnes tous les jours différentes, en vous croisant aujourd'hui et d'autres demain, etc., etc., quand on repart chez soi, on dit « Ah oui, mais effectivement, tiens, elle m'a dit ça, ou tiens, j'ai trouvé sympa ce qu'il a fait, ce qu'elle a fait, etc. » Et tout ça fait en sorte, effectivement, qu'on est plus ouvert, qu'on comprend mieux les choses, et donc, du coup, qu'on est sûrement plus heureux en bout de course.
Comment imaginez-vous l'évolution de votre engagement citoyen dans les prochaines années?
Ah, la retraite. Oui, je dis ça parce que en même temps, moi, je suis à quelques années de la retraite, mais je me dis que mon engagement associatif, il peut quand même continuer, notamment sans venir embêter non plus des équipes de professionnels après, mais en termes d'un conseil d'administration, ben, ça peut donner la possibilité quand même de soutenir l'équipe de salariés, les valeurs, et à un autre poste, à un autre niveau, la non-salariée, pour le coup, pouvoir quand même poursuivre son engagement. Peut-être qu'aussi, je ferai un engagement autre, comme j'ai, par exemple, entraîné énormément en rugby, ou ben, peut-être ça peut être aussi ça. Mais on verra à ce moment-là.
Quel est le projet que vous rêveriez de lancer?
Je ne sais pas si c'est de nouveaux projets. En tout cas, souvent, comme on parle pour nous de la génération Erasmus, avec des jeunes qui, depuis des années, avec des projets Erasmus, sont venus se déplacer. Aujourd'hui, un projet comme Wetché qu'on a lancé, comme je dis, on est à peut-être 800 jeunes, ou je ne sais plus, mais que ce type de choses puisse demain, pourquoi pas, se multiplier, se développer pour justement aller vers des valeurs, plus de solidarité, d'ouverture au monde, d'ouverture aux autres. Voilà, ça serait peut-être ça que je pourrais souhaiter. Mais bon, comme on dit souvent, chaque jour on dit ce projet-là, il pourrait être intéressant. Mais bon, après, il faut aussi le mettre en place. Donc, il y a plein de choses qui pourraient être sympas à faire.
Que diriez-vous pour inciter quelqu'un à s'engager?
Ben, un peu les mêmes choses. Vous me posiez la question de ce que ça a pu faire chez moi. Je pense que l'engagement, et monsieur le maire aussi en parlait là tout à l'heure, ça apporte à chacun une possibilité de voir le monde, de voir les autres différemment, et donc soi-même d'arriver à mieux comprendre ce qui se passe autour de moi, mais aussi dans le monde où souvent je donne comme exemple aussi à des volontaires qui partent à l'international. Je dis peut-être ça vous permettra de mieux vivre en couple. Ils ne comprennent pas, ils disent mais qu'est-ce que ça vient faire alors que je vais partir au Vietnam? Ben parce que vivre en couple, par exemple, c'est aussi des compromis, arriver à mieux comprendre la compagne avec laquelle je suis. Je pense que c'est ça, l'engagement aussi, ça permet de mieux comprendre l'entourage qui est le sien. Et donc, de fait, ben, tous les jours, dans son travail, dans son couple, dans ses loisirs, ça permet de mieux vivre ses relations. Et comme je disais tout à l'heure, ben, peut-être on peut penser d'être plus heureux.
Voilà, reportage réalisé le 15 janvier dernier. C'était lors de la cérémonie des vœux de Jean Touzeau, maire de Lormont. Voilà, c'était au PAM. Hein. Et là, on remercie à la fois Chloé, bien sûr, pour la réalisation du reportage, et Jean-Marc Dutrotteau. Voilà, avec plein de judicieux conseils autour de l'engagement. Voilà, Jean-Marc Dutrotteau, directeur de l'association Couleur du Monde. Allez, on va tout de suite se plonger dans l'atmosphère musicale de Nova Sauvageonne, histoire de rappeler que ce vendredi 30 janvier au Garage Moderne, eh bien, il y a la 11e édition des Entractes Solidaires. Donc si vous voulez passer une bonne soirée pour une bonne cause, eh bien celle-ci en fait partie. Allez, on écoute Nova Sauvageonne et je reviendrai pour un petit agenda culturel et on se quittera à nouveau en musique avant de retrouver les jeunes reporters européens. Nova Sauvageonne.
See.
Et oui, Nova Sauvageon, la station d'épuration. Voilà, je rappelle que Nova Sauvageon sera en concert ce vendredi soir, 30 janvier, au Garage Moderne à Bordeaux. Voilà, c'est un événement organisé par l'association Les Gratuits Gironde Solidarité en partenariat avec le Garage Moderne, voilà, qui est le lieu qui accueille cette soirée où il y aura des échanges, quiz, stand-up, d'autres artistes, DJ set surprise, exposition artistique. Voilà, je rappelle que cette soirée est à prix libre, donc vraiment donne qui veut, donne qui peut, et que ça va pour soutenir l'association qui elle-même soutient bien les sans-abri. Hein, voilà, parmi les actions phares, il y a une maraude chaque semaine, voilà, pour être au plus près des sans-abri, pour apporter du réconfort, de la chaleur, à manger, des produits d'hygiène, etc. Et également une distribution de repas dans le quartier des Aubiers. Donc voilà, une belle initiative. Et là, regardez, là, on est en direct. J'ai réalisé un petit agenda, donc si vous voulez rajouter la musique, Elliot, vous avez carte blanche pour me donner le tempo. Même s'il n'y a pas de... Voilà, c'est parfait. Voilà, c'est une équipe qui gagne. Allez, juste quelques infos sur cette partie agenda. Allez, en ce mardi 27, alors Odoradio est également partenaire de l'Université populaire des Hautes-Garonne depuis pas mal d'années, donc à minima, bien c'est partagé leur info. Et ce sont toujours des conférences. Voilà, c'est l'éducation populaire, hein, c'est-à-dire que vraiment tout le monde est le bienvenu. Et même si des fois il y a des titres de conférences qui semblent un petit peu compliqués, on peut se dire oui, c'est pas pour moi, mais c'est ça l'éducation populaire, c'est d'avoir des érudits, voilà, des spécialistes et qui arrivent à vulgariser les thématiques. Il y a toujours un échange voilà, avec le public, hein. C'est en accès libre et gratuit. Donc ce mardi, bien, pour illustrer mes propos, réchauffement ou dérèglement climatique, point d'interrogation, c'est la deuxième partie. Et c'est Jean-Michel Doriac, qui est le président de cet asso, d'ailleurs, qui va animer cette conférence. Alors on va juste rappeler pour le côté pratique, c'est salle Condorcet, 12 rue Condorcet. Donc là, pour le moyen mémotechnique, c'est pas très compliqué à Lormont. Ça démarre vraiment à l'heure, 18h30, l'ouverture des portes aux alentours de 18h15. Et il faut compter entre la conférence et l'échange avec le public. Eh bien, une conférence qui va se terminer aux alentours de 20h. Vous aurez à la salle Le Reflet à Tresse en ce mardi 27 janvier à 17h30 la compagnie Née d'un doute qui va explorer dans le spectacle Amstramgram des jeux d'enfants pour mettre en lumière le grand jeu des relations et de la construction de chacune et chacun. Et c'est une ambiance circassienne, voilà, très jeune public à partir de 4 ans. Donc si vous voulez un petit peu plus d'infos, bien sûr, vous allez sur le site de la ville de Tresse ou sur le site internet dédié de cette salle de spectacle Le Reflet. Jeudi 29 janvier, donc vous avez bien compris, thé dansant par l'association Les Amoureux du thé dansant de Bassens, et ce sera animé par l'orchestre Aldo Feliciano, voilà, je le prononce à l'italienne, au gymnase Seguino de 14h30 à 19h, avec toujours le même principe, hein, de la musique, de la bonne humeur, de la danse. Et en milieu de l'après-midi, bien, la pause goûter, voilà, bien méritée pour les participants. Si vous voulez un petit peu plus d'informations, n'hésitez pas à contacter bien sûr la ville de Bassens, voilà, ou nous appeler nous, hein, parce que c'est difficile de donner un numéro de téléphone à l'antenne. Mais en tout cas, c'est plus prudent de réserver. Et en ce jeudi 29 janvier, je vais en clôturer par cela. 3 concerts au Rocher de Palmer. Vous aurez Gogo Penguin. Donc là, c'est complet à la salle 1200 ce jeudi. Vous aurez Perceval là, et là, comme je disais déjà hier sur cet agenda, voilà, il restait juste quelques places, voilà, et j'avoue que j'ai pas eu le temps d'aller jeter un petit œil voir les deux pour voir s'il y a encore des places. Mais vraiment, le conseil, c'est avant d'aller en concert, se déplacer, bien, c'est de réserver sa place, bien sûr, pour ne pas venir pour rien. Et le troisième concert, c'est Glopelgag, voilà, de l'art pop tout droit venu de Québec, voilà. Et ce sera un concert au Rocher de Palmer, bien sûr, mais au Salon de Musique, voilà, s'il fallait être précis. Allez, on va rester là en ce qui concerne notre journal de ce mardi 27 janvier. Voilà, on ne va pas partir comme cela, bien sûr. Déjà, remercier Elliot à la régie technique. Merci Aurélien pour la présentation, réalisation des brèves. On remercie Chloé également pour la réalisation du reportage où vous avez pu entendre Jean-Marc Dutrotteau, directeur de l'association Couleurs du Monde, qui parlait d'engagement. Voilà, on le salue également, bien évidemment, Jean-Marc et toute son équipe de l'association Couleurs du Monde. Voilà, dans quelques instants, on va se quitter avec le groupe JSG, Jérôme Soler Group, avec Time, issu de son deuxième album, en rappelant que demain, voilà, on va avoir un joli plateau dans le cadre de ce journal, hein, on va mettre en avant un concert qui va se dérouler le 7 février prochain, un concert caritatif, solidaire. On aura en direct, ici, en présentiel, José Garcia, qui est l'organisateur de cet événement, lui-même musicien, eh bien, il va venir avec sa guitare notamment pour nous interpréter quelques titres en direct. On aura Yann, là, un des artistes également avec son groupe Mozovan. On diffusera un extrait dans le cadre de ce journal spécifique demain, et on aura le plaisir de l'avoir quelques instants par téléphone. Et on aura également Jérémy, le batteur de JSG, qui nous donnera des nouvelles du groupe ou le troisième album qui arrive. Voilà, donc on se quitte avec JSG avant la venue du batteur demain du concert du 7 février prochain. Et juste après JLG, Jérôme Soler Group, eh bien, vous allez retrouver nos jeunes reporters européens.
Écoutez les jeunes reporters européens chaque mardi de 2h30 à 13h sur Eudo Radio.
En partenariat avec la Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine.
Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Radio O2 sur la fréquence 91.3 FM dans l'émission Jean Reporter Européen en collaboration avec la Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine. Nous sommes des volontaires européens à la Maison de l'Europe dans le cadre du Corps européen des solidarités et chaque mardi, nous avons l'opportunité d'animer une émission sur Radio O2 sur un sujet qui nous tient à cœur. Aujourd'hui, on a choisi un thème qui nous concerne tous au quotidien. Les langues étrangères. Comment on les apprend, comment on les pratique et surtout comment on les vit quand on part à l'étranger. Depuis qu'on est arrivé à Bordeaux en septembre, on a tous dû s'adapter. Et pas seulement en parlant les français, mais aussi l'anglais. Entre nous, on parlait surtout en anglais et puis il y a assez bien de personnes dans notre groupe qui parlent très bien l'espagnol aussi. Donc, à la fin de la journée, nous aurons parlé au moins deux ou trois langues différentes entre nous ou des autres. Du coup, heureusement, je ne vais pas parler toute seule, donc on va présenter à mes collègues. Bonjour, ça va ?
Oui, ça va.
Oui, ça va. Et toi, Pilar ?
Ça va, merci. Parfait, je suis contente que vous allez bien. Voilà, pour commencer, j'aimerais profiter de cette occasion pour rappeler à nos auditeurs qui nous sommes. Donc, on va faire un petit tour de table et vous pouvez donner votre prénom, de quel pays vous venez et pour les sujets d'aujourd'hui, quelle langue vous parlez. Clara ?
Ok, je peux commencer. Coucou, moi, je suis Clara et je viens de Suède, un grand pays du nord en Europe. Donc, ma langue maternelle, c'est suédois et c'est une langue plus compliquée en fait et c'est la langue officielle dans mon pays. Mais je vais commencer de vous donner un peu d'informations parce que, en fait, il y a beaucoup de gens qui font dans le pays nordique. Alors, oui, on partage la histoire, la culture. Par exemple, la Suède est un grand puissant du 17e siècle et pas vraiment. Est possédant de parties de la Norvège et du Danemark. On partage de la culture aussi et la histoire. Et les Suédois sont assez similaire avec la langue nordique en général. Le suédois n'est pas vraiment utile en Europe, dans la Sud, mais sauf dans le nord nordique, parce que les langues sont assez similaires. J'ai un ami qui parle norvégien et je peux parler suédois avec lui et nous comprenons. Oui. Bah, c'est vraiment cool en fait. Néanmoins, c'est-à-dire que pas je comprends toutes les langues nordiques, non pas du tout. Les langues plus difficiles sont vraiment plus difficiles, sont finnois et danois, mais on le finnois comme une langue minorité en Suède et le suédois est une langue officielle en Finlande. Donc on partage la langue aussi dans le pays nordique. Seulement c'est complexe, le dialecte complique aussi les choses, mais bon, je parle la langue suédoise.
Cool, merci. Coucou, moi je suis Martina, je viens de l'Italie et je parle italien, espagnol, anglais, français. Mais quand je viens de la Sardaigne, je parle un peu de sarde aussi.
Ok, très cool.
Moi, c'est Karl et donc je viens d'Allemagne, je parle allemand, mais je parle aussi anglais, français et en lycée j'apprends espagnol, donc je parle aussi espagnol.
Très bien.
Et moi, je viens de la Belgique et je m'appelle Ophélia. Et je parle trois langues. On a trois langues officielles en Belgique, mais ma langue maternelle, c'est néerlandais ou flamand, qui est le dialecte. Et après, je parle anglais, français, aussi un peu italien parce que j'ai fait un Erasmus en Italie et un peu allemand parce que allemand, c'est très près de néerlandais et j'ai aussi fait un stage en Allemagne, donc oui.
Ok, beaucoup de langues. Et Ophélia, en venant de Belgique, est-ce que le français faisait déjà partie de ton quotidien ou pas du tout ?
Oui, bonne question en fait. Avant de répondre à ta question, je voudrais juste expliquer un peu. Alors la Belgique est séparée en quatre régions de langues. On a Flandre où on parle néerlandais ou flamand. On a aussi Wallonie où on parle français. On a Canton de l'Est où on parle allemand, qui est juste à côté d'Allemagne aussi. Et finalement, on a Bruxelles qui est officiellement bilingue où on parle français et néerlandais. Mais moi, je viens de Bruxelles. Donc, normalement, ma langue maternelle, c'est néerlandais. Donc, normalement, je devrais pouvoir parler en néerlandais à Bruxelles. Mais ce n'est pas le cas parce qu'à Bruxelles, la langue la plus parlée, c'est le français. Donc, oui, pour répondre à ta question, Pilar, le français, c'est déjà partie de mon quotidien, toute ma vie.
Ok, très bien. Bon, déjà pas mal de langues différentes dans notre petit groupe. Ok, moi je viens de l'Espagne, donc ma langue maternelle est l'espagnol. Mais en fait, ce n'est pas du tout évident, parce que si je venais d'une région comme Catalogne ou les Pays Basques, ma langue maternelle serait une autre, comme les catalans ou les euskera. Et j'avais pris le français à une école de langue, mais le parler tous les jours, c'est vraiment autre chose. Ok, du coup... y a-t-il parmi vous quelqu'un qui est en train d'apprendre une langue ou au contraire qui a cessé d'apprendre une langue?
Pour moi, en ce moment, j'apprends activement le français et l'anglais. Parce que comme je suis aussi en France, je ne parle pas français tous les jours et entre nous, on parle beaucoup d'anglais, donc j'améliorerai dans les deux. Mais je ne m'assois pas comme en école. Pour apprendre du vocabulaire ou des choses comme ça, pour apprendre en langue dans ce moment. Mais peut-être quand je passerai le C1 en mai, je vais faire ça encore une fois. Mais oui, c'est tout un peu.
Ok.
Ah, ok, ça c'est bien. Pour moi, c'est la même chose en fait. Pour l'instant, j'ai essayé d'apprendre l'espagnol à cause de mes amis dans notre groupe, mais aussi d'autres amis parce que j'ai fait mes études aux États-Unis. Donc, il y a gavé des gens qui viennent de le pays d'Amérique du Sud. Mes meilleurs amis qui viennent de la Mexique et aussi du Pérou. Donc, c'est essentiel pour moi d'apprendre l'espagnol. Mais c'est difficile.
Ah oui, j'imagine.
Tu peux dire quelque chose en espagnol?
Hola, mi amo Clara. Claro que sí, claro que sí.
Muy bien.
Et moi, personnellement, c'est un moment où je suis en train de réapprendre le français parce qu'il y a 8 ans que je ne le parle. Parce qu'à l'université, je me suis surtout concentrée sur l'anglais et l'espagnol. Donc, j'ai un peu laissé le français de côté. Mais après l'université, j'ai travaillé pendant quelques temps. Et j'ai toujours pensé à apprendre le français, donc je ne l'ai jamais vraiment oublié dans mon cœur. Et puis, dans ma vie, j'ai essayé plusieurs fois d'apprendre l'allemand, mais sans beaucoup de résultats. Et j'ai aussi essayé le portugais, le suédois. Oui, taxonomique. Et surtout avec Duolingo. Mais au niveau de la langue que je l'ai plus abandonnée, c'est le catalan, parce que j'ai fait un Erasmus à Palma de Majorque et je pouvais écrire des petits textes et me présenter. Maintenant, je regrette un peu de ne pas avoir pu le parler, même si le février dernier, je suis allée à Barcelone avec une amie et je comprenais certaines choses. Donc, le catalan, c'est encore là de quelque part.
Mais qu'est-ce que vous pensez à Duolingo, en fait? Parce que, à mon avis, c'est vraiment difficile d'apprendre la langue sur Duolingo. C'est une autre chose. En fait.
Ouais. Oui. Moi maintenant, je suis en train d'apprendre le chinois dans Duolingo, mais pas trop sérieusement parce que c'est trop difficile dans l'app de vraiment apprendre. Oui,
oui. Oui, c'est vrai. T'as raison. Ouais.
Donc, oui, peut-être dans 10 ans, je pourrais parler un petit de chinois, je ne sais pas. Et en plus, j'ai aussi cessé l'allemand quand je suis sortie du collège parce que, en fait, ça ne me plaisait pas. Et mes professeurs étaient un peu bizarres quand même.
Oh non. C'est vrai, Cal. Les Allemands sont bizarres.
Non, c'est pas vrai.
Il est espagnol.
Ah oui.
Mais pour connecter avec ce qui suit, parlons un peu de l'école. Est-ce que vous pensez de l'école, quelle école vous a vraiment préparé à parler une langue étrangère?
Moi, personnellement, je pense que l'école peut donner une bonne base pour la langue. Mais... apprendre, comme apprendre le vocabulaire facile, les règles de grammaire, etc. Mais je pense qu'on a besoin de plus que ça. Par exemple, moi, j'avais allemand quand j'étais dans l'école pendant 3 ans. Et donc, on faisait beaucoup des exercices comme les règles de grammaire, comme par exemple der, die, oder, das, que je pouvais bien faire, mais je ne savais pas dire grand-chose en allemand. Donc, je pense qu'apprendre une nouvelle langue, c'est vraiment... on a c'est vraiment nécessaire de parler, qu'on ne faisait pas trop dans les cours d'allemand. Donc je pense que pour moi, les cours de langue dans des écoles, en Belgique surtout, donnent une bonne base, mais ils ne suffisent pas. La meilleure manière pour moi, c'est d'apprendre une langue, c'est juste, dans mon expérience, c'est d'intégrer dans la langue et d'être forcé de parler.
Mmh. Oui, je suis d'accord. Et ensuite, Clara, est-ce que l'anglais est aussi important comme nous l'imaginons? Et par rapport en France, tu trouves comment l'apprentissage de l'anglais?
Bah, tout à fait. Il y a un truc avec le pays nordique parce que en Europe, le pays européen dit que le but est de suivre le pays du Nord à cause du niveau anglais en Espagne, en France ou le pays en Europe en général. Je peux dire, ce n'est pas une mythe. Le niveau anglais est très bien dans le pays nordique. Il y a beaucoup de personnes qui parlent anglais, mais on commence à 7 ans avec de petites phrases et chansons en anglais dans l'école. Donc, c'est plus important de commencer au début. Enfin, c'est obligatoire aussi de terminer l'anglais à l'école pour obtenir ton bac pour le lycée. Cela a également un lien avec la culture populaire. On regarde le film qui sont produits en Amérique du Nord, mais nous ne doublons pas nos films. On regarde avec le sous-titre, mais ça, c'est juste comme ça. Et c'est plus important d'apprendre l'anglais à cause du film et d'autres choses, les magasins ou d'autres choses comme ça. Mais il ne faut que pas traduire. Donc, tout le pays insiste énormément sur le fait que l'apprentissage de l'anglais est essentiel. Et donc, c'est vrai.
Et
en France, on doit être honnête aujourd'hui. Le niveau anglais est moins élevé en France. Les élèves et les gens, en général, ils sont de difficultés avec la langue. Et bien souvent, ils ne le parlent pas du tout. Mais cela nous donne du travail.
Oui.
Et c'est pour ça que notre mission est d'aller dans l'école et faire des interventions en anglais et parler avec les élèves et participer avec les élèves de leçons en anglais. Et ça, c'est important.
Mm-hmm. C'est bien pour nous.
Oui, j'ai déjà vu dans les écoles qu'on visite pour faire les interventions en anglais. Et personnellement, en Espagne, j'avais beaucoup de théorie, mais moins de pratique orale. Toi, Karl, comment ça se passe en Allemagne?
En Allemagne, dans les écoles, on apprend généralement l'anglais à partir de 8 ans. Ça commence aussi avec des chansons, des phrases,
oui,
tout ça, comment j'ai dit bonjour, des choses comme ça. Mais on continue jusqu'à la fin de la scolarité et je pense qu'on ne peut pas quitter l'anglais. Et dans certaines écoles, comme la mienne, on commence une autre langue étrangère à partir de la cinquième, donc c'est à partir de 10 ans.
Et tu as choisi le français, non?
Oui, moi, j'ai choisi le français à partir de 10 ans.
Et
à partir de 14, j'ai aussi l'espagnol. Mais c'était mon lycée. Mais par exemple, mon frère, il a commencé latin. À partir de 10 ans. Okay. C'est un truc en Allemagne.
Très utile. Nous, on a ça aussi. Ouais.
Mais maintenant, il apprend le polonais. Donc, il a quitté le latin pour apprendre le polonais. Mais ça dépend vraiment de lycée. Normalement, on peut choisir une autre langue à partir de 14 ans. Parfois, à partir de 10. Mais ça dépend vraiment du lycée et aussi de la région. Parce qu'en Allemagne, l'éducation relève de la compétence de les régions. Ce n'est pas un truc général.
Ok, parce que c'est un peu la même chose en Suède. On doit choisir une langue européenne, mais juste entre l'allemand, français ou espagnol.
Non, ça on a tout. Beaucoup. Ça dépend de l'école. On a italien,
mais ça, c'est cool.
Polonais, latin, français, espagnol.
Il y a beaucoup de choix.
Parfois, il y a aussi arabe. Oui.
Ok. Bon, maintenant, parlons de notre expérience en tant qu'étrangère ici, en France. Quand vous êtes arrivé à Bordeaux, comment vous vous sentiez avec le français?
Pour moi, pour être honnête, vu que je parle français à Bruxelles, ça ne change pas grand-chose. Mais au début, j'avais un petit peu peur de parler avec les Français parce que j'avais l'impression qu'ils sont très stricts avec la langue et que tu ne peux pas faire des erreurs en français. Et à Bruxelles, ce n'est pas vraiment le cas parce qu'en Belgique ou à Bruxelles, il y a plein de gens qui parlent français, mais avec un accent parce que ce n'est pas la langue maternelle. Ou ils font des erreurs aussi parce qu'ils sont en train d'apprendre, parce que ce n'est pas la seule langue qu'on parle en Belgique. Donc là, on a d'habitude de juste parler avec un accent, que je sais en France que ce n'est pas vraiment le cas. Donc pour ça, j'avais un peu peur de parler français avec, en France. Mais en fait, ce n'est pas trop le cas. Je n'ai pas eu trop de remarques de mon accent ou quelque chose. Mais c'est vrai que j'avais peur qu'ils vont me demander « ça vient d'où ce petit accent-là ?»
Donc... Mais non.
Non, c'est jamais passé, mais j'avais peur pour ça.
Parfois, si tu dis 90...
Ah oui, là, ils sont... 90, tu veux dire 70
oui.
Ah non, non. Je suis d'accord.
Moi, comme j'ai dit avant, quand je n'ai parlé pas français depuis 8 ans, au début, j'avais un peu peur. J'attendais de faire un cours de langue pour vraiment recommencer à les parler, mais donc je me suis appuyée sur l'anglais. Mais il y avait l'urgence, la nécessité de les parler, donc je me suis lancée. Et j'ai appris le français simplement en les parlant. Et en plus, les personnes étaient très ouvertes, je pense, et patientes aussi, à l'écoute. Et ça m'a beaucoup aidée.
Mm-hmm. Et c'est quoi le plus difficile pour toi en français? La prononciation, la grammaire ou la vitesse?
La conjugation des aucun verbe, les prépositions aussi, et en aucun cas la vitesse, oui, ça dépend de l'accent.
Mm-hmm. Pour moi, j'ai du mal à écrire. Écrire en français, c'est vraiment difficile avec tous les accents et les E qui sont à la fin ou qui ne sont pas à la fin. Mais parfois aussi la vitesse que les Français y parlent. Parce que quand tu es avec un groupe de seulement des Français, ils parlent tellement vite. Oui. Et j'ai vraiment du mal à comprendre ou juste participer dans la conversation, en fait.
Mais aussi parce qu'ils parlent dans le même temps, en fait. Et il y a beaucoup de bruit dans oui. le même temps. Et il faut qu'attendre, mais c'est vraiment, ouais, c'est vraiment difficile. Oui, ça change aussi.
Oui, bien sûr.
Et du coup, est-ce que tu oses parler français même quand tu fais des erreurs? Parce que moi, j'ai vraiment du mal à faire ça.
Parfois, j'ai du mal à parler quand je fais des erreurs et ça me gêne un peu. Mais en fait, je me dis quand je me sens comme ça que c'est la seule manière d'apprendre une nouvelle langue, faire des erreurs. Si tu ne fais pas des erreurs, j'apprendrai jamais. Donc,
oui, ouais. Bien sûr. Et avec beaucoup de motivation, on peut apprendre pas mal de choses en 3 mois ou même un mois. Mais pour avoir un bon niveau de français, en général, on a besoin de beaucoup plus de temps. Est-ce que ça fait, ça peut être partie, c'est ça que ça fait particulièrement difficile. Pardon. Souvent, on est motivé au début, mais avec le temps, on perd sa motivation. Mais alors, comment on fait? Comment on fait pour rester motivé sur le long terme?
Pour moi, la solution, c'est dans un moment de faire un peu tous avec maintenir le plaisir de l'apprentissage. Donc, moi, je regarde des séries, des films avec des sous-titres. Par exemple, ici en France, j'ai commencé en série en Netflix. Je sais pas, en policier, quelque chose, français.
Mmh.
Et oui,
ça on s'appelle apprend. Comment?
Je sais pas.
Okay.
C'est quelque chose à Marseille, ça joue à Marseille.
Gatekeep, ok.
Oui, aussi, parfois, quand on écoute de la musique, ça aide aussi.
Mm-hmm.
Parce que c'est le son, on écoute toujours le son et oui.
Ok, bon, je vais profiter de ce que tu viens de dire pour écouter une chanson que j'écoutais quand j'ai commencé à étudier le français. Ça s'appelle « Mon amour » du groupe canadien Grand et Jeune.
Je n'ai pas la tête à prendre de tes nouvelles.
Nous sommes de retour dans Jeune Reporter Européen. Vous écoutez Radio O2 sur la fréquence 91.3. Bon, apprendre une langue, ça a aussi beaucoup d'avantages, même pour la santé. Est-ce que vous saviez que quand on apprend une langue étrangère, on améliore sa mémoire et sa capacité de concentration? On peut même retarder l'apparition de certains symptômes liés à la maladie d'Alzheimer. Pour vous, qu'est-ce que parler plusieurs langues vous apporte dans la vie?
Moi, je pense qu'apprendre des langues peut apporter beaucoup d'opportunités, comme faire des études à l'étranger, par exemple. Moi, j'ai fait mon Erasmus en Italie, et pour ça, je devais apprendre l'italien très, très vite, qui était très difficile. Mais sinon, sans la langue, je n'aurais jamais pu y aller. Mais même après les études, tu as plusieurs des opportunités professionnelles qui ne seront pas accessibles pour toi si tu ne parles pas la langue. Pour moi, si je parlais ni anglais ni français, je n'aurais jamais arrivé ici en France avec vous. Donc.
Oh. Oh. Bah, tout à fait. Je suis vraiment d'accord avec toi, Ophélia. Mm-hmm. Mes langues ont donné l'opportunité, en fait. Pour moi, je fais mes études à l'étranger, en Afrique du Sud, dans une ville qui s'appelait Durban. Et l'expérience était incroyable. C'est l'anglais là-bas, c'est une langue officielle. Bah, en fait, il y a 12 langues officielles dans l'Afrique du Sud, il y a beaucoup. Mais j'ai aussi étudié un peu des isiZulu, c'est une langue de Bantu, et qui était la grande langue de la province KwaZulu-Natal et la ville de Durban. Et ça a changé mes interactions avec les habitants locaux. Parce que l'anglais, c'est la langue coloniale en Afrique du Sud. Et je pouvais établir un lien différent avec les habitants locaux à cause de ça. Et si je disais quelque chose en isiZulu, par exemple, « Sawubona, sawubonani » et quelque chose comme ça. Et les langues sont puissantes, mais en général, elles sont tout simplement amusantes aussi, en fait. On s'amuse quand je parle dans d'autres langues.
Mais alors, pour être honnête, est-ce qu'il y a aussi des inconvénients à apprendre des langues? Parce que pour moi, des fois, je me frustre parce que je n'arrive pas à m'exprimer comme je veux.
Moi, je me sens comme toi, Pilar. Ces moments que je parle activement en quatre langues, j'ai fait parfois des confusions. Et il y a des mots qui je pense qui existent dans ma tête, mais qui en réalité sont un mélange des langues que je parle. Et il y a des jours où je me sens plus à l'aise en anglais, d'autres en espagnol ou en français. Et ça dépend aussi du sujet que je dois parler. Parce que parfois, je ressens l'anglais comme une sorte de protection pour les sentiments. Alors que l'espagnol, le français, l'italien me semblent plus expressifs et intimes. Et je ne sais pourquoi, mais aussi, ça m'arrive que quand je parle italien au café linguistique, comme je ne suis pas habituée, je me dis, je peux vraiment parler ma langue ici sans être moi à m'adapter aux autres. Et donc, oui, le seul vrai inconvénient, c'est que ça peut être mentalement fatigant.
Et toi, Carl?
Pour moi, oui, c'est aussi le plaisir. On peut parler dans un pays étranger. C'est. Oui. Mais les difficultés. Il y a aussi des difficultés, comme vous avez déjà expliqué. Donc, oui, bon. C'est les deux.
Oui. Cette année, Rosalía, une artiste espagnole, n'a pas eu peur de langue. Sur son nouvel album, elle chante dans 13 langues différentes. Aujourd'hui, nous allons écouter « De Madruga », qui contient des paroles en ukrainien et en espagnol, bien sûr.
La cruz en el techo calibra mi cuerpo para desquitarme, yo tengo derecho. La cruz en el pecho calibra mi cuerpo para desquitarme, yo tengo derecho. Me pesa la cadena. De vuelta.
Voilà, notre émission touche à sa fin. Mais avant de finir, est-ce que quelqu'un a un dernier conseil pour les auditeurs qui veulent apprendre une nouvelle langue cette année?
Oui, moi je peux faire ça. Parce que un dernier conseil pour progresser efficacement dans l'apprentissage des langues, c'est prendre son temps, ne pas aller trop vite, ne pas aller trop rapidement. Tout va très vite, mais quand on a trop vite, qu'on va trop vite, on n'a pas le temps d'apprendre parce que quand on va lentement, le cerveau a le temps de vraiment comprendre la structure du langue, des phrases, de mémoriser le vocabulaire, d'analyser pourquoi on fait des fautes, parce que les fautes sont nécessaires, c'est aussi un truc qui est important pour les gens qui sont, par exemple, encore dans le lycée ou quelque chose comme ça, fait des fautes. Oui, c'est normal. Donc, c'est absolument essentiel de prendre son temps. Et en tout cas, pour moi, c'est une approche qui me permet d'apprendre beaucoup plus efficacement que quand je vais trop vite.
Oui, il faut avoir de la patience avec soi-même. Bon, merci à vous toutes et à tous de nous avoir suivis aujourd'hui sur Radio O2, dans Jeune Reporter Européen, en collaboration avec la Maison de l'Europe Aquitaine. Merci aussi à mes amis Cal, Clara, Martina et Ophelia pour leurs réponses. Et on espère que cette émission spéciale sur les langues vous a plu et surtout qu'elle vous a donné envie d'apprendre d'autres langues. À la semaine prochaine et surtout, continuez à parler même avec des fautes.
Oui, merci. C'est ça. Merci.
Au revoir.
Merci.
Au revoir.
Vous avez écouté les jeunes reporters européens en partenariat avec la Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine.
Salut.
Ciao.
Tchuss.
Adios.